Bonjour à tous, bonjour aux internautes. Ce matin, nous sommes tous ensemble et j'ai une bonne nouvelle. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Alors j'aimerais qu'on puisse l'accueillir comme il se doit, parce que c'est le roi des rois. À l'époque, il y avait les Juifs ont accueilli Jésus quand il est rentré dans Jérusalem avec un grand hosanna au plus haut des cieux. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir Jésus de cette manière-là, en chantant hosanna, si vous êtes d'accord. On y va, hosanna. Thank you. majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Chantez-le.
nous t'élevons ce matin. Sois glorifié, Jésus, dans nos vies. Seigneur, nous voulons te remettre notre vie entière. Encore ce matin, quelle joie de pouvoir te chanter, quelle joie de pouvoir t'élever. Nous voulons vraiment que tu viennes maintenant encore toucher notre vie. Viens nous parler dans nos cœurs. Viens nous parler dans notre âme. Viens agir ce matin.
Où qu'elle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Lève ta voix.
tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens de faire une déclaration. Je veux m'approcher de toi, Jésus, et laisser mes peurs derrière moi. Je veux, Seigneur, agis en nous, agis dans nos vies, dans nos cœurs. Tu connais toutes les situations autour de nous, toutes les personnes qui sont ici. Tu connais leur vie, tu connais la vie de ceux qui écoutent au travers d'Internet. Tu sais, Seigneur, tout ce qu'ils vivent. Agis puissamment dans leur cœur maintenant. Donne des paroles, Père. Viens apporter la paix dans les situations difficiles. Viens guérir les cœurs qui sont en souffrance. Viens accompagner ceux qui pleurent. Viens accompagner ceux qui sont blessés. Viens accompagner ceux qui ne savent pas par où aller. Tu traces la vie de chacun d'entre nous. Tu as un projet, un plan bienveillant. Et nous voulons le suivre, Seigneur, et nous voulons dire oui. Nous avons ensemble dit oui. Je laisse mes peurs de côté et je veux m'approcher de toi. Donc ça veut dire que toute autre chose est en second plan, n'a pas plus d'importance. Non, toi seul, toi en premier, toi, tu as toute notre attention et l'importance dans nos vies. Nous voulons t'honorer et te laisser agir. C'est un pas de foi que nous faisons ensemble. Si vous avez une situation à remettre entre les mains du Seigneur, vous pouvez le faire en silence. C'est un moment de cœur à cœur. Vous savez, Dieu sait ce que vous vivez.
Sur la terre. Ma vie est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire pour nous en 2024? Je vous invite juste à un temps de recueillement après ce chant de célébration qui élève le nom de Jésus, un temps de recueillement intérieur pour pouvoir méditer, réfléchir juste avant qu'on puisse continuer à célébrer Jésus, à grandir avec lui. Juste de réfléchir un instant sur « ma vie est remplie ». Dans quel domaine de votre vie, de ma vie, j'ai besoin encore de voir la gloire de Dieu? Une touche de la présence de Dieu. Alors, entrons en recueillement juste un instant et méditons sur ce chant, sur cette prière que nous avons fait monter à Dieu. Et permettez-moi de pouvoir unir ça en prière aussi ce matin avec vous. Nous venons, Seigneur, de chanter un chant de proclamation, de célébration, un chant d'adoration. La terre est remplie de ta gloire et notre terre, notre humanité a besoin de connaître, de reconnaître Jésus, le Sauveur, celui qui restaure, celui qui réconcilie, celui qui guérit, celui qui sauve. Notre ville, notre Eurométropole, nous prions pour elle aussi. Afin que la gloire de Dieu, ta bienveillance, ta bonté, ta vie, ta sainteté se manifestent dans tous les quartiers et dans toute l'agglo de Strasbourg, Seigneur. L'Église, nous avons encore besoin que tu continues à transformer ton Église de l'Épi, que tu continues ton œuvre pour nous unir, que nous soyons un comme toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, de nous soutenir, de nous bénir mutuellement, de nous encourager, de te faire connaître par l'amour que nous avons les uns pour les autres, te faire connaître aussi au travers du message contemporain de l'Évangile que nous voulons apporter. Ma vie, chacune de nos vies. Ce matin, nous voulons prendre le temps de remettre nos vies et tout ce qui est intérieur devant toi. De toute façon, il n'y a rien de caché devant toi. Tu sondes tout. Et nous te demandons, Seigneur, continue ton œuvre dans nos vies, dans nos relations, dans nos pensées, dans nos tensions, dans nos émotions, dans notre réunion. Merci Seigneur pour ces temps de louanges qui rafraîchissent l'âme et qui t'élèvent toi. Amen. Amen. Voilà, bonjour à chacune et à chacun. On est très heureux de vous accueillir ici à l'église de l'Épi pour un temps de célébration en pleine période estivale. Heureux de vous accueillir pour ces temps où on pense à Jésus, on élève le nom de Jésus, on veut inviter Jésus à transformer nos vies et on voudrait accueillir les personnes qui nous visitent parce que vous êtes en vacances dans la plus belle région de France ou alors que vous avez déménagé pour le travail ou en famille ou autre. Enfin, pas vous mettre mal à l'aise, vous vous reconnaîtrez, mais est-ce que les pieds, on pourrait souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous visitent ce matin en les applaudissant? Quelques informations sur notre vie d'église, justement. L'Épi, c'est plus que des célébrations. Le dimanche matin, on se rassemble dans les quartiers par petits groupes de centres d'intérêt pour prier, pour grandir dans la foi, pour faire connaître aussi Jésus avec un groupe de contacts de rue. Il y a plusieurs éléments qui composent, éléments de vie qui composent notre vie d'église. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ma première annonce concerne le hall d'accueil. Qui a été perturbé en entrant à l'Épi ce matin? Levez la main. Personne, incroyable. Tout le monde était prêt à cette transformation. Non. Plus sérieusement, on a réaménagé le hall d'accueil pour toujours mieux accueillir les personnes nouvelles et vous accueillir, vous, église. Donc, le hall fait peau neuve. Et il ne s'agit pas du début des travaux. Calmons-nous, d'accord? C'est simplement une réorganisation pour pouvoir avoir un meilleur gain de place pour les stands, pour accueillir toutes les personnes. Donc, comment ça va fonctionner au fur et à mesure de la vie de l'église? Après chaque célébration, directement sur votre droite, vous aurez différents espaces. Il y aura un espace de bienvenue pour les personnes nouvelles qui viennent pour la toute première fois. Ils auront accès à un évangile. S'ils ont besoin d'une Bible, il leur sera offerte des informations sur la vie de l'église, sur comment aller plus loin peut-être avec Jésus. À côté de ce stand-là, il y aura un stand vie d'église, un stand d'accueil pour toute la vie d'église. Vous voulez en savoir plus sur comment contribuer, comment vous investir, servir au niveau de l'église, comment se passe la vie des petits groupes ou autres, juste à côté, vous aurez ce stand de vie d'église et vous pourrez vous renseigner. Il y aura une personne qui sera là et qui pourra vous donner toutes les informations, toutes les ressources disponibles. Juste à côté, vous aurez la librairie avec la Bible, avec nos livres de doctrine, de théologie, ce que nous croyons, ce que nous voulons vivre au quotidien. Et encore à côté, vous aurez un espace qui sera là dédié parfois pour des stands de services qui en auraient besoin. On a aussi notre espace café qui est mis maintenant directement à gauche quand on rentre. Comme ça, quand vous arrivez, ça sera bien en hiver. Tout de suite sur votre gauche, vous aurez le café chaud et le thé et vous serez là posé. Et juste au centre, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vous poser en famille, en amis, pour pouvoir bien être accueilli. Qui est content qu'on puisse avoir un hall qui est accueillant et qui est fonctionnel? Faites-vous juste connaître et applaudissez Jésus si vous le désirez. Nous, on pense que c'est super important de pouvoir bien accueillir. Donc voilà, réaménagement. D'autres informations, une information importante, on a une nouvelle session de baptême qui arrive. Vous avez démarré une marche spirituelle avec Jésus, il est venu impacter votre vie, changer votre vie, une bonne nouvelle pour vous. Il y a une nouvelle session qui commence à compter du mercredi 11 septembre à 19h en salle polyvalente du rez-de-chaussée bas. Comment participer à cette nouvelle session de baptême? Vous vous inscrivez donc à l'espace vie d'église, l'espace bienvenue, tout de suite en sortant de cette salle, tout de suite à droite, vous verrez, pour vous inscrire. Et vous serez contacté par un membre de l'équipe pastorale pour un temps d'entretien, pour pouvoir écouter votre parcours et pour pouvoir vous accompagner et cheminer avec vous. Donc dès maintenant, si dans votre cœur, il y a une rencontre spirituelle qui a été faite avec Jésus et que vous voulez commencer une marche de disciple, ce parcours de disciple est pour vous tout de suite à la fin de cette célébration. Inscrivez-vous à notre prochain service de baptême. On a aussi une info concernant la mise en place d'une équipe de sécurité. À compter du 1er septembre, il y a une équipe qui est mise en place pour veiller au bon déroulé de nos rassemblements et aussi veiller à ce que le trouble à l'ordre public puisse être prévenu. C'est important pour nous, on est une assemblée de plusieurs centaines de personnes et il est important de pouvoir veiller à ce que le trouble à l'ordre public soit pas mis en danger, que les rassemblements se passent bien, les circulations soient respectées aussi, parce que comme c'est un grand bâtiment, on a besoin de s'assurer que toute personne du plus petit au plus grand est en sécurité. Sept bénévoles sont déjà engagés dans ce service et nous aurions encore besoin de bénévoles. Si vous vous sentez le cœur de mettre en sécurité les gens, pas besoin d'être costaud comme moi non plus, d'accord, mais à cœur de pouvoir vraiment travailler à prévenir et à pouvoir accompagner en sécurité les gens. Vous pouvez aussi vous inscrire donc tout de suite en sortant de cette salle dans l'espace vie d'église. Vous pourrez vous inscrire et dire je voudrais faire partie de cette équipe de sécurité. Une formation est là. On a des personnes membres de l'église qui travaillent dans la sécurité au niveau séculier, qui donnent des formations qui correspondent au lieu de culte chez nous. Donc on est vraiment bénis d'avoir plusieurs corps de métier qui nous aident aussi à être une église pertinente, une église qui met en sécurité. Donc un grand merci aux formateurs, un grand merci à toutes les personnes qui rendent possible cette équipe de sécurité importante, notamment moi je pense aussi à mes enfants, que dans les couloirs ou autres, que ça tourne bien, ça circule bien. Il me semble que j'ai une dernière annonce où je pense que je suis allé au bout du concept, c'est parfait, on va laisser la place à Michel qui va nous apporter un message en lien avec notre série Les prières de Jésus. Est-ce qu'on peut encourager Michel ce matin? On est heureux de l'avoir à la maison. On va prier avec lui, on va prier pour lui, que ce message édifie notre foi, nous donne de la nourriture pour les prochains jours. Seigneur, merci. Merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir encore écouter ta parole prêchée, transmise au travers de disciples de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que c'est un moment fort pour l'Église de pouvoir trouver de la nourriture solide, spirituelle pour notre âme, de pouvoir être encouragé, défié aussi dans notre foi. Alors on veut te prier pour Michel, que tu puisses au travers de lui vraiment encore continuer à ce que l'Église de l'Épice soit une Église qui soit accueillante, qui soit édifiée, qui soit encouragée. Merci pour ces moments de prédication. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, Michel.
Amen. Merci, Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Heureux d'être avec vous. Merci aussi à tous ceux qui participent à la construction de ce temps de rassemblement, ce culte, aux musiciens, techniciens, et particulièrement aussi ceux qui s'occupent de l'accueil et qui nous accueillent dimanche après dimanche. Merci à tous ces bénévoles. Pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes donc dans une série concernant les prières de Jésus, et c'est important de regarder cette partie de la vie de Jésus. Les prières sont importantes pour lui, faisaient partie intégrante de son ministère. On le voit notamment au moment de son baptême, dans Luc au chapitre 3. On le voit au moment d'appeler ses disciples. C'était quelque chose d'important pour lui d'être au plus près de la volonté de Dieu. Il priait seul dans Luc 5, avec son cercle rapproché, Pierre, Jacques et Jean. Il priait avant d'enseigner la foule. Il priait lors de la résurrection de Lazare, le message de dimanche dernier avec Matthieu, que vous pouvez retrouver sur notre site, ou bien au cours du dernier repas, dans Jean 17, avec ce message fort de Raymond Pierre, ou bien dans le jardin de Gethsémané, dans Luc 22, avec Jérôme. Et il priait aussi sur la croix. Du début jusqu'à la fin de son ministère, on voit Jésus en prière. Et la prière la plus connue, certainement, c'est le Notre Père, que vous trouvez dans son intégralité dans Matthieu au chapitre 6. Donc ces prières sont inspirantes. Elles nous enseignent quelque chose. Et elles dévoilent son cœur pour l'humanité, pour ses disciples et aussi pour nous aujourd'hui. Si vous voulez connaître le cœur de quelqu'un, écoutez-le prier. Écoutez sa prière. Et vous entendez dans sa prière son cœur, ce qu'il vit intérieurement. Et sa prière en dit long sur le genre de relation qu'il entretient avec Dieu. Lorsque j'ai fait la connaissance de mon épouse, Evelyne, nous étions en mission en Afrique. Et en tant qu'équipe missionnaire, nous avions régulièrement des temps de prière. Et ce qui m'a particulièrement rapproché d'Evelyne, c'était sa manière de prier. Chaque mot était pesé. C'était du lourd. Et ça m'a rapproché d'elle. Et ça a été un facteur clé de notre future relation. Alors, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas quel genre de conjoint vous cherchez, mais moi je cherchais quelqu'un qui puisse servir le Seigneur à mes côtés. Et je cherchais quelqu'un de sérieux, de profond, et Dieu nous a fait la grâce de pouvoir nous rencontrer et de pouvoir fonder une famille, et j'en suis profondément reconnaissant. Ne minimisons pas la prière. C'est un facteur important. C'était un facteur important pour la vie de Jésus et je pense que nous pouvons l'imiter. Il est notre modèle en tout. Et donc aussi dans le domaine de la prière. La thématique de ce matin, c'est la prière qui sauve la foi. On va voir au travers du reniement de Pierre, on pourrait intituler aussi le message « Quand Jésus prie pour nous ». Pour contextualiser cette dimension ce matin. Quand Jésus prie pour moi, quand Jésus prie pour toi, quand Jésus prie pour nous. Et on va faire la lecture dans Luc au chapitre 22 à partir du verset 31. Verset 31 jusqu'au verset 34 dans la version second 21. Un petit mot sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc a été rédigé par Luc qui est médecin. Il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Il est médecin, mais aussi historien. Et il a à cœur de méthodiquement, systématiquement, chronologiquement expliquer ce qui s'est vraiment passé, dans un langage simple et clair, à destination de tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec les traditions religieuses. Et Luc nous montre combien Jésus est proche de nous. Son amour pour les petits, son amour pour les humbles, son amour pour les exclus, son amour pour les femmes, pour les pauvres, pour les étrangers. Et si vous démarrez la lecture de la Bible, je vous recommande particulièrement de commencer avec l'évangile de Luc, ce sera plus simple. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Seigneur lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. » Je vous donne un petit peu le contexte de ce passage. Jésus partage un dernier repas avec ses disciples, au cours duquel ils vont prendre ensemble la Sainte Cène. C'est un moment de grande vulnérabilité. Jésus dévoile vraiment son cœur, son besoin de passer ce temps avec ses amis. Mais il va aussi mettre en évidence, ce moment-là, la défaillance des disciples. Ils discutent entre eux, savez-vous de quoi ? Savoir qui était le plus grand, qui était le meilleur, qui allait prendre la succession. C'est incroyable, incroyable. Et Jésus dévoile la défaillance notamment de deux d'entre eux, deux amis proches, deux hommes avec qui il avait partagé sa vie, avec qui il a ri, pleuré, voyagé, mangé, vécu des aventures mémorables. Ce sont deux hommes qu'il a aimés et qu'il a formés pendant 3 ans et demi. Deux hommes qui sont sur le point de le lâcher. L'un va le renier et déclarer faussement ne pas le connaître. L'autre va le trahir, le dénoncer, le vendre. L'un va se repentir, l'autre va avoir des remords. L'un sera restauré, l'autre se prendra la vie de manière tragique. L'un conduira des milliers de personnes à Christ, écrira même 2 livres dans le Nouveau Testament, 2 lettres, on lira une partie tout à l'heure, et l'autre aura laissé un triste souvenir sous la forme d'un avertissement. Il s'agit de Pierre et de Judas. Jésus a prié pour Pierre, Jésus a prié pour les disciples, et aujourd'hui même, Jésus prie pour nous. Et ça, c'est bon à savoir. Alors, la suite, je l'ai développée en 3 parties. La première partie, nous sommes éprouvés. On va, sur la base du texte qu'on vient de lire, essayer de décortiquer, trouver la matière à nourrir notre foi. Nous sommes éprouvés. Deuxième partie, nous sommes portés par la prière de Jésus. Et troisième partie, nous sommes missionnés. Commençons par la première partie. Nous sommes éprouvés. Luc chapitre 22, donc au verset 31. Simon, Simon. Jésus interpelle Pierre par son nom d'origine. Son vrai nom. Shimon. Shimon. Nous connaissons ce nom, on le retrouve dans Shema Israël. Ce nom veut dire écoute, écoute. À 2 reprises, Jésus dit Simon, Simon. Quand mon épouse veut que je n'oublie pas quelque chose, elle me le répète 3 fois. N'oublie pas le pain, n'oublie pas le pain, n'oublie pas le pain. Qui c'est qui n'oublie pas le pain? Mais c'est normal. Les psys vous diraient, mais trop d'informations tuent l'information. Et on peut noter dans la parole l'équilibre de Jésus. L'équilibre. Simon, Simon. Et quand Jésus dit quelque chose 2 fois, ça veut dire que, attention, je vais dire maintenant quelque chose d'important. Par exemple, il dira, en vérité, je vous le dis. Il le répète 2 fois. Ou bien, Jérusalem, Jérusalem. J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. Tu l'as pas voulu. C'est important. Simon, Simon. Simon fait référence à sa nature humaine, sa nature faillible. On va pas lui jeter la pierre ce matin parce que, en regardant bien la vie de Simon, son parcours, ce qu'il dit, ce qu'il vit, on se retrouve, parce que la Bible est un miroir et elle nous révèle qui nous sommes véritablement. Simon, c'est-à-dire référence à sa nature faillible. Autrement dit, Jésus est en train de lui dire, Simon, je sais qui tu es, je connais ta famille, je sais d'où tu viens, je connais tes points forts, je connais tes points faibles. Je sais tout de toi. Moi, je n'ai jamais rencontré, dans le cadre de mon ministère, un chrétien qui n'ait pas son lot de luttes et de combats. Nous en avons tous, parce que nous avons tous cette nature faillible. Martin Luther disait « Le visage de l'Église est le visage d'un pécheur ». Jean Chrysostome, un père de l'Église, disait « La nature humaine n'est que faiblesse et infirmité ». Oui, Jésus connaît Pierre, et il connaît Pierre mieux que lui-même, mieux que Pierre ne se connaît lui-même. Pierre est convaincu d'être prêt. Je suis prêt à aller en prison avec toi, dit Pierre, et même jusqu'à la mort. Alors ça arrivera un petit peu plus tard. Mais la vérité, c'est que Pierre ne se connaît pas lui-même. Et c'est exactement cette faille que l'adversaire va exploiter chez lui pour le faire chuter. Manque de recul sur lui-même, manque d'objectivité, confiance excessive en lui-même. Et Jésus dira, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'adversaire ne peut pas agir sans la permission de Dieu. Il est obligé de demander l'autorisation de Dieu pour intervenir. Son objectif est clair, séduire les disciples, les faire sortir du plan de Dieu, détruire leur foi. Et son objectif avec nous est le même. Il cherche à détruire notre foi. Et c'est là que Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Le diable cherche à détruire ce que Dieu construit. Et on le voit de plus en plus, c'est rendu de plus en plus évident, de plus en plus visible, même dans notre société. On a un exemple frappant. Autour de nous, dans notre société, où une minorité cherche à imposer une idéologie de déconstruction, jusque dans nos écoles. Il y a quelque chose de diabolique là derrière. L'adversaire ne peut pas nous toucher, il ne peut pas nous éprouver, à moins que Dieu ne lui donne la permission. Nous sommes au bénéfice de la prière de Jésus, à l'heure du combat spirituel. Nous ne sommes pas seuls. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. À l'heure où tu es éprouvé, Jésus prie pour toi, pour moi. 1 Corinthiens 10, verset 13 dira « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés, c'est le même vocabulaire, au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Nous sommes donc tous faillibles, nous avons tous nos angles morts. Vous savez, comme sur certains véhicule, camion, vous avez ce petit macaron qui dit « Attention, angle mort ». Nous en avons tous. On est tous au même niveau. Comme pour les disciples, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Mais heureusement que Jésus est là. Il est avec nous. Et puis c'est Pierre lui-même qui demande aux chrétiens d'être vigilants, notamment en raison de ses failles. Sachant que l'adversaire s'appuie sur nos fragilités pour nous faire chuter. Par exemple, il dira dans sa lettre 1 Pierre 5 au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Alors il lui dit, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Le crible, c'est un espèce de grand tamis, une espèce de grande passoire qui permettait au blé ou à la céréale d'être secoué pour séparer le grain des impuretés. Et Jésus dit, le diable vous a secoué. Et le diable va vous secouer. Comment secoue le blé ? Vous allez être éprouvé. Mais j'ai prié pour toi. Donc ce matin, si nous sommes éprouvés, nous sommes aussi assurés de la prière de Jésus pour nous. Personnellement, individuellement et collectivement. Jésus prie pour son Église. Nous sommes éprouvés. Deuxièmement, nous sommes portés par la prière de Jésus. Verset 32. « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. » Alors, pour revenir à l'apôtre Pierre, on va dire de lui d'abord que c'est un impulsif, c'est un extraverti. Dans les tests de personnalité 10, on va dire c'est un D, dominant, courageux. Mais lorsque Jésus est arrêté, il fait volte-face. C'est facile de s'afficher aux côtés de quelqu'un de populaire. C'est beaucoup plus difficile quand il ne l'est plus. Les vrais amis sont fidèles, quelles que soient les circonstances. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et lorsque Jésus est arrêté, Pierre prend ses distances, les autres aussi. Et à trois reprises, il dira qu'il ne connaît pas Jésus. En réalité, il le connaît. Oui, il le connaît quand même très bien. Pierre a tout quitté pour suivre Jésus. Il a été le premier à déclarer que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Dans Jean, au chapitre 6, au verset 68, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » On a peine à croire que c'est le même Pierre. Il était avec Jésus au moment de la transfiguration. Et c'est sans doute lui qui a dit le premier, « On n'est pas bien là ?» C'est ce qu'il dit sur le mont de la transfiguration. « Dressons des tentes, on va rester là, parce qu'on est bien là. » Il a marché sur l'eau, il a fait partie du cercle rapproché, il était parmi les intimes, il a vu de ses propres yeux sa belle-mère être guérie instantanément. Il l'a vu. Il a participé à toutes les conversations, il a assisté à tant de miracles. Mais bien sûr que Pierre connaît Jésus. Et il a affirmé le contraire. Et ça, c'est terriblement douloureux pour Jésus. C'est terriblement douloureux. Maintenant, la prière de Jésus en sa faveur ne l'a pas empêché de chuter. Et ce n'est pas parce que Jésus prie pour nous que nous n'allons pas tomber. Jésus est aussi un parfait pédagogue. Et dans sa pédagogie, il va permettre quelques loupés, quelques ratés, quelques chutes pour qu'on apprenne à mieux se connaître et à plus compter sur lui. Et le problème de l'apôtre Pierre, c'est qu'il comptait davantage sur lui-même, sur ses ressources, que sur Jésus. Et dans la vie chrétienne, quand on a compris que tout a toujours rapport avec Jésus, on a tout compris. Tout compris. Ce n'est pas sa foi qui a flanché, mais c'est son courage. Il a manqué de courage. Il a eu peur de subir le même sort que Jésus, tout comme les autres disciples, qui n'étaient pas plus courageux. Dans Marc, au chapitre 14, Marc a soin de nous préciser qu'à ce moment-là, quand les Romains sont arrivés, quand Jésus a été arrêté, tous l'ont abandonné. Alors tous l'abandonnèrent, dit le texte, et prirent la fuite. Il n'en avait pas un pour attraper l'autre. Alors cette scène est tellement proche de nous, parce qu'on se retrouve à un moment ou à un autre, parce que nous ne sommes pas meilleurs. Jésus a prédit la chute de Pierre, mais il a aussi anticipé sa restauration. Il n'y a pas seulement du négatif, Jésus nous dit toujours la vérité, mais en même temps, il nous conduit vers une restauration, vers la croissance. Et notre but dans nos messages et dans notre vie d'Église, c'est de permettre à tout ce que nous disons, ce que nous faisons, de grandir dans notre foi et de devenir de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Avant le lever du jour, le coq se met à chanter. Luc 22, au verset 61. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui a marqué la vie de Pierre, quelque chose de très important. Le coq chante. Auparavant, Pierre a renié à trois reprises Jésus. Le texte nous dit, Luc 22, au verset 61, « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. » L'original, dans le grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, dit ceci, « Et s'étant retourné, le Seigneur fixa le regard sur Pierre. » Ce n'est pas juste un clin d'œil. Le Seigneur fixa Pierre. Quel regard! À ce moment précis, je crois qu'il y a un échange intense dans ce regard entre Pierre et Jésus. À votre avis, quel regard le Seigneur a-t-il porté sur Pierre? Un regard de déception? Un regard de reproche? Un regard de jugement? Genre, je te l'avais bien dit, Pierre. C'est ça? Je pense que le Seigneur a porté sur Pierre un regard d'amour. Un regard d'amour. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Eh bien, c'est qu'immédiatement après, Pierre est sorti. Et il a pleuré amèrement. Moi, je crois que là, il a vécu quelque chose de fort. Il a craqué. Et je crois que chacun d'entre nous, à un moment ou un autre de notre parcours, on a besoin de craquer. On a besoin de réaliser qui on est vraiment. Et que c'est impossible que par nos forces, nous puissions vivre une vie chrétienne authentique. On a besoin de la grâce de Dieu. C'est pas possible autrement. Jésus a dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors bien sûr qu'on a des talents, bien sûr qu'on a des choses reçues. C'est ce qui fait dire à John Maxwell, un expert en leadership, le talent, c'est un don. Mais le caractère, c'est une question de choix. Et à la fin de ce message, je vais vous encourager à faire un choix. À prendre les bonnes dispositions, comme l'a fait Pierre, pour grandir dans notre foi, pour grandir dans notre vie de disciple. Je crois qu'il a posé sur lui un regard d'amour. Ce regard-là, il ne l'oubliera jamais. C'est un homme au cœur brisé par l'amour de Jésus, et c'est un amour qui va le restaurer. Pierre est porté par la prière de Jésus, tout comme nous sommes portés par la prière de Jésus. Cette prière va le conduire à une véritable repentance. Romains chapitre 2 et au verset 4 dira que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est son amour qui nous pousse à la repentance. Et cette séquence du reniement va être un tournant dans la vie de Pierre. Il est face à lui-même. Il est face à la dure réalité de sa nature. Il est obligé de dire, oui, Seigneur, ça, c'est bien moi. C'est moi. Je reconnais, je suis face à qui je suis réellement. Il y a quelque temps, j'ai vécu un moment de grande vulnérabilité. Ça faisait quelque temps que je n'étais pas allé chez le dentiste. Ce dentiste est particulier parce que il emploie un certain nombre de méthodes assez modernes et il est passionné de photographie aussi. Donc, pour ce premier rendez-vous, il m'a pris en photo toute ma bouche sous tous les angles pour voir ce qu'il allait pouvoir faire. Et quand il a fini cette séance, il m'a emmené dans son cabinet particulier où il y avait un grand écran. Il m'a placé devant l'écran et il s'est un petit peu reculé en me prévenant gentiment, avec beaucoup de tact et beaucoup de diplomatie et de pédagogie, avant qu'il mette les photos sur les diapos sur l'écran. Et c'est un grand écran qui multipliait la bouche par 5, 6, 7, je ne sais plus. On voit sa bouche, mais... Alors il m'a prévenu et il s'est retiré. Alors je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va se passer ? Première diapo, deuxième diapo. Alors je me retourne, je dis, c'est moi ? Oui. Il y a un trou par-ci, une carie par-là, du tartre par... Oh ! Un moment de grande solitude. Un moment de grande vulnérabilité. Alors je lui dis, il va falloir faire quelque chose là. Oui, oui, on va travailler. Alors je lui dis, bon, ça serait bien aussi la décoration, l'esthétique. Et il me dit, non. On ne va pas commencer par l'esthétique. On va commencer par les fondations. Waouh ! Alors là, il me parle. On va commencer par les fondations. Parce que la destination de la mâchoire et des dents, c'est de bien mastiquer, avoir une bonne digestion. Et il m'explique tout le processus. Je dis OK. Et pour commencer, on va déjà enlever tout le tartre. Alors, il y a une méthode moderne, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais on va commencer par le commencement. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à Pierre. Si tu veux grandir dans ta foi, eh bien, il faut commencer par le commencement. Il faut d'abord travailler sur les fondations. Ce qui inquiète beaucoup la génération âgée aujourd'hui, par rapport à la jeune génération, c'est la superficialité. Et là, on est un peu dans un cœur à cœur. L'ancienne génération a connu beaucoup de choses qui... Elle a été secouée. Il y a eu les guerres, il y a eu, pour certains, même des choses dramatiques, la pauvreté, les privations, etc. Ce qui a généré une certaine force et à créer des fondements solides. Et les choses sont devenues de plus en plus faciles, si belles et si bien, qu'il y a eu, pour une jeune génération, beaucoup de facilité, et ce qui a entraîné parfois un peu de légèreté et de la superficialité. Et les aînés prient pour la jeune génération, pour avoir une génération qui soit fondée et enracinée. Et si nous voulons avoir une vie enracinée, bien, il faut commencer par le commencement. Amen. Je vois que vous réfléchissez. Alors, il était derrière moi et il me dit, ne vous inquiétez pas. Ça rassure. Parce que quand vous voyez la réalité, vous dites, c'est impossible, c'est catastrophique. Ne vous inquiétez pas. On va remettre de l'ordre. On va réparer, on va restaurer. Et on va faire ce qu'il faut pour que vous puissiez à nouveau bien utiliser votre mâchoire. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il va permettre à Pierre d'être restauré. Et Pierre sera restauré et il va pouvoir exercer un ministère d'une nouvelle dimension. Jésus est actuellement assis à la droite de Dieu il agit comme médiateur, il agit comme intercesseur et même comme avocat, comme défenseur, traitant toutes les accusations que Satan porterait contre les croyants. Il se tient devant Dieu, dit la Bible, en tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, le grand intermédiaire entre Dieu et les hommes. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Qui condamnera les enfants de Dieu? Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est aussi ce que dit la lettre aux Hébreux, chapitre 7, au verset 25. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est vivant pour intercéder en leur faveur. La lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 2, au verset 1er. « Mes petits enfants, dira Jean, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat ou un défenseur. » Le mot ici, c'est « paraclétos ». Ce vocabulaire est utilisé aussi pour le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui défend notre cause, qui nous assiste. Nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un accusateur, mais nous avons aussi un avocat. Alléluia. Un avocat qui plaide notre cause. Nous sommes donc éprouvés, mais au bénéfice de la prière de Jésus, nous sommes portés par la prière de Jésus. Et troisièmement, nous sommes missionnés. Au verset 32 de Luc 22, « Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et là, Jésus anticipe la restauration de Pierre. Il prédit la chute, mais il prédit aussi le fait qu'il sera restauré. Et il y a presque tout un chapitre qui est consacré, Jean chapitre 21, tout un chapitre qui est consacré à la restauration de Pierre, où Jésus va le prendre à part et il va lui demander « Pierre, m'aimes-tu ?» Et beaucoup de commentateurs se sont attardés sur le fait d'aimer, la différence des verbes « agapé » ou « philéo », etc. Mais moi, ce que je constate ici, c'est que Pierre répond « Seigneur, tu sais toutes choses. » Ça qui m'intéresse. « Seigneur, tu sais toutes choses. » Autrement dit, tu me connais parfaitement. Tu sais tout de moi. Tu connais mon présent, mon passé, mon avenir. Tu sais tout, Seigneur. Et c'est à ce moment-là que Jésus va lui dire, « Eh bien, nourris mes agneaux. Voilà ta mission. Affermis, encourage, exhorte, avertis, bénis, édifie, construis. » Et Pierre aura un rôle prépondérant dans la formation de cette jeune Église. Ce ne sera pas le premier pape, hein, ce n'est pas le premier pape, mais il aura un leadership dans lequel il va avoir la confiance de toutes les églises qui vont suivre, avec ce souci d'affermir les chrétiens. Ce n'est pas parce que vous avez flanché, et c'est le message que nous retenons ce matin de cette expérience de l'apôtre Pierre, ce n'est pas parce que vous avez flanché que vous avez perdu la foi. Ce n'est pas parce que vous avez manqué de courage que vous n'êtes pas un bon chrétien, une bonne chrétienne. Ne vous laissez pas enterrer par vos failles et par vos défaillances. Ne vous laissez pas enfermer. Dites pas « je suis un hypocrite » ou « indigne » ou « un mauvais exemple ». L'important, c'est de revenir à Jésus. Ne restez pas dans votre état, mais revenez et faites comme l'apôtre Pierre. Jésus va entamer la conversation en l'appelant Simon. Simon, oui, il le connaît parfaitement et il nous connaît parfaitement. Mais en même temps, il termine la conversation en l'appelant Pierre. Et dans le premier contact que Jésus a eu avec Pierre, il dira « Simon, fils de Jonas ». Et déjà, Pierre est étonné. « Simon, fils de Jonas, oui, je sais qui tu es. Tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre. » Et Pierre, c'est en grec, c'est « Petra », c'est-à-dire « caillou ». Et il va dire, parce que juste avant, il venait de déclarer que Jésus était le fils de Dieu, il dit bien, tu es pierre, tu es caillou, mais sur cette, tu es Pétros, et sur cette Pétra, ce rocher que je suis, cette déclaration que tu as faite, je suis le Messie, je bâtirai mon Église. Merci Seigneur, parce qu'il ne bâtit pas son Église sur moi, sur mes collègues, sur nous, mais sur lui. Je bâtirai mon Église. Et il est le rocher. Nous sommes des petits cailloux, mais c'est lui le rocher. Missionné pour affermir, pour nous encourager les uns les autres, pour nous fortifier, pour nous édifier les uns les autres, comme des pierres vivantes. C'est notre mission. L'important, c'est donc de revenir comme Pierre l'a fait. Ce que Jésus est en train de lui dire et ce qu'il nous dit ce matin, je ne te laisserai pas tomber. Ce n'est pas parce que tu as flanché que ta mission s'arrête. Tu reviens et tu reprends le plus bel. Richard Toupin écrit une chanson dans laquelle il dit, c'est un chanteur canadien, « Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. » Je ne sais pas si tu te considères comme quelqu'un qui n'est jamais tombé, en tout cas. On tombe tous, c'est ce que dit Jacques, d'une manière ou d'une autre. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais celui qui se relève après être tombé est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Je vais inviter l'équipe à revenir sur l'estrade avec cette conclusion de l'apôtre Pierre lui-même, qui a écrit deux lettres. Dans cette première lettre, au chapitre 5 et au verset 10, il dira « Le Dieu de toute grâce ». Et il sait de quoi il parle. « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » C'est son objectif. Il vous a appelé, il vous a choisi. C'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai appelé à la gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est ce que dit aussi la prière dans Jean 17, et c'est Raymond Pierre qui nous l'a rappelé. Jésus n'est pas là pour nous retirer du monde, pour nous éviter les souffrances, pas du tout. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous, écoutez bien les verbes, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Ouais, c'est celui qui est tombé qui écrit ça. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Avant de chanter avec l'équipe, on va peut-être juste donner une réponse au Seigneur ce matin. Peut-être qu'on peut tous se lever à notre place et donner une réponse au Seigneur. Le Seigneur qui prie lorsque nous sommes éprouvés, qui nous porte dans sa prière et qui renouvelle son ordre de mission pour chacun et chacune d'entre nous. Malgré nos chutes, malgré nos imperfections, il est le Dieu fidèle, il est le rocher. Nous sommes une petite pierre, mais une pierre vivante. Peut-être que quelqu'un a besoin, comme l'apôtre Pierre, de réaliser que par lui-même il ne pourra pas. Tu pensais être prêt? Le Seigneur te dit ce matin, non, tu n'es pas prêt. C'est moi qui suis prêt et qui vais conduire ta vie pour que tu puisses être prêt. Tu as peut-être besoin d'un temps de vulnérabilité, un temps de face à face, dire oui Seigneur, je suis celui-là, je suis comme je suis, j'ai besoin de ta grâce, je pensais être prêt, je pensais être quelqu'un d'autre, mais c'est ta parole qui a raison, cette parole qui reflète là devant moi, qui est un miroir. Je réalise un petit peu comme le grand écran de ce cabinet de dentiste. Oui, c'est bien moi, c'est moi. Je suis obligé de l'admettre. J'ai besoin de toi, Seigneur. pour la restauration, pour la réparation, pour la transformation dont j'ai besoin. Et la parole de Dieu n'est pas seulement là pour informer, mais elle est là pour nous transformer. Alors Seigneur, tous autant que nous sommes ce matin, nous avons besoin de toi. Et nous voulons te le dire de tout notre cœur. Pardon, Seigneur, pour nos imperfections. Pardon pour les trahisons. Pardon, Seigneur, pour les reniements. Faisons pas comme Judas ce matin. Lui, il a trahi. Il aurait pu aussi se repentir. Mais il a simplement nourri sa vie de remords. Il a regretté ce qu'il a fait. Il a regretté les conséquences. Il a pleuré sur lui-même. Pierre aussi a pleuré sur lui-même. Mais il a réalisé au travers du regard avec Jésus combien il avait fait mal à Dieu, combien il avait fait mal à Jésus. Et ce matin, la repentance est d'abord envers Dieu. Seigneur, pardon parce que nous t'avons fait du mal. Pardon parce que nous t'avons offensé. David dira, j'ai péché contre le ciel. Lorsque le fils prodigue revient, il dit, pardon, j'ai péché contre le ciel et toi. Pardon, Seigneur, parce que nous t'avons fait mal. Et nous voulons reconnaître le tort que nous avons fait. Viens à notre secours. Viens à notre rencontre ce matin. Change nos cœurs. Change nos vies. Merci pour ton œuvre de restauration, de transformation. Et ensemble, Seigneur, personnellement, individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église, nous voulons, à ta suite, reprendre le chemin de la mission que tu nous as confiée. Merci, parce que tu ne nous enterres pas, tu ne nous condamnes pas, tu ne nous juges pas, mais tu nous relèves. À toi, Seigneur, toute la louange et toute la gloire pour ton œuvre de relèvement, de restauration, de résurrection de notre vie. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
foi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
C'est notre prière en tant qu'Église pour la semaine qui vient, aujourd'hui, demain et les autres jours. Viens toucher nos vies, Seigneur, à chaque jour qui suffit sa peine. Merci de bénir tous ces moments où nous sommes face au miroir, face à l'écran, de nous souvenir de tout ce qui a été partagé, que nous avons un Dieu qui intercède, un défenseur, il relève. Merci Seigneur de ces temps, merci de nous permettre de nourrir cette réflexion, cette méditation tout au long de la semaine, de ne pas oublier Seigneur, que tu relèves celui qui est affligé et tu continues à le missionner tellement bon, Seigneur. Merci pour ces moments et on te donne encore une fois toute la gloire. Amen. Amen. Si vous avez besoin d'un temps d'espace d'écoute, de prière, un prolongement, la présence de Dieu, Dieu est en train de travailler vos cœurs. Nous avons tout un espace dédié pour vous. Tout de suite sur ma gauche, sur votre droite, cette allée va être libérée. Il va y avoir des flexibarrières qui vont être posées et il y a toute une équipe qui vous attend pour prolonger ce temps peut-être de cœur à cœur avec Dieu, ce temps d'écoute, de prière. Donc n'hésitez pas, vous avez ce souhait, ce désir, cette conviction qu'on prie avec vous, que vous soyez en couple, que vous soyez solo, que vous soyez peut-être plus jeune, ado, enfant, il y a cette possibilité de ce prolongement d'espace d'écoute et de prière. L'accueil est là pour vous aussi, pour les baptêmes, inscrivez-vous, vous avez besoin d'informations sur l'église, les stands sont là, on vous souhaite une bonne semaine et que Dieu soit encore bien. Est-ce qu'on peut juste encore acclamer Jésus, l'applaudir pour tout ce qu'il a fait pendant cette série de messages? Et dimanche prochain, on commence une nouvelle série sur la culture, culture ambiante, culture d'église. Donc disposons nos cœurs, qu'on continue à briller là où Dieu nous a appelés. Bonne semaine à chacune et à chacun. Ouais.